Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Émilie du Châtelet est née en 1706 à Paris. Et Isaac Newton, qui a déjà passé la soixantaine, n'en entendra jamais parler. Émilie, en revanche, va consacrer une partie de son existence à Newton, mais jusqu'à son dernier souffle. Pour comprendre comment, il faut remonter à l'enfance, plutôt dorée, de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, qui grandit dans une famille de la haute aristocratie française où elle reçoit une éducation identique à celle de ses frères. Avec son père, Louis-Nicolas de Breteuil, la jeune fille se frotte aux langues anglais, italien, mais aussi grec et latin, à la philosophie naturelle, autrement dit la physique et les mathématiques. Avec sa mère, elle découvre l'astronomie, la théologie et l'étiquette, un peu de clavecin, de chant, de danse et d'équitation. Et voilà qu'à 16 ans, Émilie est parfaitement mûre pour entrer dans le grand monde à Versailles, en pleine régence, où son père, qui occupe le poste d'introducteur des ambassadeurs étrangers, a toutes ses entrées. Le siècle des Lumières commence, les mœurs se libèrent, la cour est joyeuse et animée au gré des débats enflammés qui agitent tout ce que la France et l'Europe comptent de beaux esprits. Émilie se sent comme un poisson dans l'eau. Émilie, ou Madame du Châtelet, comme il faut l'appeler désormais, depuis son mariage à 19 ans avec un homme qui en a 40, le marquis du Châtelet. Grand militaire devant l'Éternel, celui-ci comprend vite que sa femme est bien plus intelligente que lui et qu'elle a le goût des plaisirs. Mais le marquis a l'esprit large, le couple s'entente à merveille pour vivre une existence relâchée où l'infidélité est admise. Pendant que monsieur visite ses forteresses, madame profite de sa jeunesse. Charmeuse, vive et taquine, elle est toujours prête à courir les salons ou les auberges un peu canailles, où elle peut jouer aux cartes toute la nuit. Ça ne lui vaut évidemment pas que des amis. Madame du Défant, l'une des plus belles langues de vipère de son époque, a un peu de mal avec ce succès. Elle écrit « Représentez-vous une femme grande et sèche, sans cul, sans hanches, la poitrine étroite, de grosses jambes, des pieds énormes, le visage aigu, le nez pointu, le teint noir, la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées. »
Sympa.
C'est Vachard. C'est...
Ça vous c'est plaît, Vachard. Mon sens, Stéphane.
Et surtout, je vais vous dire, Mathieu,
dites-moi.
C'est faux. Émilie du Châtelet, séduit par son esprit, mais c'est aussi une femme séduisante, bien loin de ce minable portrait jaloux. Parmi ses amants, un nom va changer sa vie, celui du philosophe Voltaire, dont elle sera durant 15 ans la compagne. Une rencontre qui va changer son nom. Lui l'appelle Madame Pompon Newton, faisant référence tout à la fois à sa coquetterie. Certains ont osé avancer qu'elle était trop sous, un peu trop maquillée, vous savez.
Ce qui est bien, c'est que vous dénoncez les langues de vipère, mais vous en rajoutez une couche derrière, de femme, si j'ose dire.
C'est le contrat qui nous lie. Vous m'avez demandé.
Vous avez raison, c'est vrai.
Et son génie mathématique. Donc, vous voyez les deux. Madame Pompon, c'est parce qu'on se pomponne, et Madame Newton, parce qu'elle avait la fibre mathématique. Leur correspondance ne laisse pas grande place à l'imagination quant à la nature volcanique de leur liaison. Mais leur histoire va bien au-delà et pour cela, il faut bien un petit coup de pouce du destin. Lorsque les deux se rencontrent en 1733, ça chauffe pour l'écrivain dont les lettres philosophiques n'ont pas franchement plu au roi Louis XV. Pour échapper à la police du roi, Voltaire se réfugie sur les terres d'Émilie, dans son château de Ciré aux frontières de la Champagne. En 1735, Émilie quitte la vie parisienne pour le rejoindre. Pendant plus de 10 ans, ils y mènent une vie de plaisir, mais aussi de science et d'études. On installe un laboratoire au château et Madame du Châtelet y multiplie les expériences quand elle n'écrit pas à tout ce que l'Europe compte de mathématiciens, de savants, de physiciens, Maupertuis, Réaumur, Bernoulli, Buffon. De lettre en lettre, son influence progresse à vue d'œil, d'autant qu'elle intervient dans l'un des grands débats de l'époque, celui entre Leibniz et Newton. La question est celle de la nature de l'énergie cinétique, qu'on appelle alors la force vive. En lâchant des billes de plomb dans de l'argile molle depuis les étages de son château, Émilie démontre que Leibniz a vu juste. Le livre qu'elle écrit en 1740, Les institutions de physique, reste l'une des présentations les plus claires de la pensée de Leibniz. Voyez-vous, je fais une incise, j'ai jamais rien compris à Leibniz, mais Leibniz vu par Madame du Châtelet,
c'est simple.
C'est beaucoup plus simple.
C'est comme la théorie de l'attraction universelle vue par Jamie Gourmand, notre invité.
Exactement, c'était, elle défrichait les pensées des grands de cette époque. Émilie du Châtelet se lance aussi dans une véritable petite guerre de tranchées autour de la théorie des forces motrices, dans un long, ça doit vous plaire, vous qui êtes jeune, de voix, dans un long débat avec le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Dortoud Méron. Celui-ci n'apprécie pas vraiment qu'une femme estime qu'il se trompe, démonstration à l'appui. La guéguerre dure 2 ans, mais en 1742, Madame du Châtelet a convaincu les grands mathématiciens du temps et peut écrire « Je ne suis pas secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison et cela vaut tous les titres. »
Pourquoi vous lui faites cette voix de pain bêche, la pauvre?
Je sais pas, j'essaie.
Vous l'imaginez comme ça?
J'essaie de mettre un peu d'animation dans les récits.
Ah oui, mais vous auriez pu lui faire une voix sexy à la Sharon Stone, un Basic Instinct.
Allez-y.
Je ne suis pas une secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison, ça vaut tous les titres.
Là, on dirait Pretty Woman, vous voyez.
Ou Ugly Man, on ne sait pas.
4 ans plus tard, en 1746, elle était élue membre de l'Académie des sciences de Bologne, la seule d'Europe ouverte aux femmes. 2 ans plus tard, son nom est connu et reconnu dans toute l'Europe et chacun sait qu'elle s'est lancée dans sa grande œuvre, la traduction en français des principes mathématiques de Newton, qui, je le rappelle pour les connaisseurs, avait été écrit en latin. C'est là un authentique défi. Le latin et la pensée de Newton sont complexes. Il faut adapter des concepts mathématiques qui ont vieilli et transposer l'ancien langage géométrique du savant anglais dans un nouveau système, celui de Leibniz. Émilie avance avec acharnement, ne dormant que quelques heures par nuit. Les seuls écarts qu'elle s'autorise, encore une fois, sont ceux de l'amour. À 40 ans, elle se prend de passion pour le jeune d'Alembert, gloire montante des mathématiques françaises. Elle en tombe amoureuse. Elle en tombe aussi enceinte. Ah. Et ça, malheureusement, ça va lui coûter la vie, comme à beaucoup de femmes à son époque. Comme si elle avait senti le danger, Émilie du Châtelet passe sa grossesse à Lunéville, où elle travaille avec acharnement sur sa traduction, l'une des seules activités professionnelles ouvertes aux femmes à cette époque. Le 9 septembre 1749, 2 jours après avoir difficilement accouché d'une petite fille, Émilie boucle enfin sa traduction en présence de D'Alembert et de Voltaire, qui sont tous les deux rendus à son chevet. Alors que le manuscrit part aussitôt pour la bibliothèque du roi pour être conservé et archivé, Émilie du Châtelet meurt au matin du 10 septembre, quelques mois avant cette petite fille qui ne lui survivra pas.
Oh.
Voltaire en est brisé au point de partir pour la cour du roi Frédéric II de Prusse pour tenter de faire son deuil. 10 ans plus tard, sa ténacité permettra de faire publier la traduction de L'amour de sa vie, traduction qui restera comme la référence pendant au moins 2 bons siècles. D'Alembert, lui aussi, rendra hommage, un hommage appuyé au génie de Madame du Châtelet lorsqu'il accompagnera Diderot dans la grande aventure de l'encyclopédie. L'un et l'autre avaient bien pris toute la mesure d'Émilie du Châtelet. Madame Pompon Newton était tout simplement la première grande mathématicienne physicienne française.
Europe 1, historiquement vôtre.